Camarades, c'est ce meilleur que je veux tenter de fonder, de sauver de la débâcle inavouée de nous-mêmes, de l'écroulement silencieux de grands pans de nous-mêmes. C'est parce qu'il est juste de considérer que notre essoufflement, nos reculs, nos échecs sont tissés de nos vices, de nos carences, de nos infirmités, qu'il est essentiel de vouloir que l'avenir soit tramé de nos vertus. C'est parce que nous sommes sournois, calomnieux, bivides, que notre lutte doit être totale pour l'intransigeance morale, le respect de soi-même, l'amour de tous. Sinon, nos mères, nos femmes auront pleuré des larmes dérisoires et perdues sur les peines et la vaillance de nos pères. Sinon, nous trahissons le sourire confiant des enfants et l'innocence féconde de leurs mains promise à la splendeur des lendemains de victoire. Oui, il faut que je dise cette honte totale qui m'accable et me soulève depuis plus de 10 ans d'être ce Guadeloupéen naufragé de l'histoire, hanté dans sa dérive de l'accueil d'une anse natale. C'était en 1953. Il m'était revenu la responsabilité de conduire au 3e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants une délégation d'Antillais, augmentée de 3 Haïtiens, un Réunionnais, 2 Guyanais. Nous avions quitté Paris dans l'allégresse candide d'un militantisme, matinée de curiosité touristique. Nullement incommodé de l'équivoque de nos rapports avec la représentation de la jeunesse française. De multiples incidents, certains détails d'organisation nous faisaient bien voir que nous faisions partie des bagages français, mais toutes les crises de susceptibilité, toutes les colères de l'amour-propre se dissolvaient dans les facilités délicieuses que l'euphorie du long voyage offrait à notre virilité offensive. Nous emportions tambours et guitares. Nous étions maîtres de la joie des filles. Nos chants et nos danses enchantaient les wagons et les gares, et nous prenions nos quartiers dans les fascinations de notre propre exotisme. Or, c'était le temps de la première guerre du Vietnam. Le roi Mohamed V était en exil. Le Mofilaga commençait sa carrière. La jeunesse française s'honorait du courage de Raymond Dieppe et d'Henri Martin. Et nous, Antillais, nous en étions encore à mendier l'application loyale de la départementalisation, le respect du suffrage universel, l'augmentation des allocations familiales, des crédits pour organiser l'assistance. Nous en pressions pour la véritable Union française. Nous allions au rendez-vous des sacrifices, des espérances et de la dignité des peuples, les mains vides, la tête légère. Notre mémoire n'était point si lourd, gorgé de promesses d'hommes, et nos cœurs délestés du noble poids des rébellions, tanguaient sur un océan de futilité et de mesquinerie. Nous ne méritions pas ces fleurs de l'amitié, poussées plus rouges à l'Est, ni ces cœurs, ni ces éloges préparés pour l'authenticité des héros. La honte grandissait, irrépressible. Et puis, un jour, c'était dans une gare roumaine, perdue dans une plaine, vertigineusement remplie de maïs et de tournesols. Le convoi était arrêté. Nous regardions éblouis le soleil blêmir les épis et aller les tiges raidies sous le spasme unanime et doré des corolles, quand un chant inouï éclata, plus torride que notre désertique dénuement. C'était la Dessalinienne. Les Haïtiens tenaient déployé un drapeau, et ils chantaient l'hymne qui ancra leur peuple dans l'histoire des hommes. Et nous, qui n'avions hérité ni de drapeau, ni de payant pour hutte d'homme, ni de complet pour souffrance d'homme, nous n'avions le choix qu'entre la Marseillaise du compartiment d'à côté et les obscénités du terroir que nous déguisions en folklore. L'un des Haïtiens nous avait toujours impressionnés par quelque chose de pur, d'entier, qui semblait habiter. Il jetait quelquefois son grand corps de sorcier dans des danses, et là où le muscle de ses pas tranchait sur le balancement invertébré de nos beginners. Il commandait alors aux tambours et nous sommait de les frapper en nègre d'Afrique. Sa voix dense et pleine de frémissements nous transperçait de questions étranges sur nos luttes, nos moyens, notre avenir caraïbe. Et l'espoir tenace du fond de ses yeux rallumait sans cesse un brasier dont l'éclat rayonnait sur son visage des têtes fines, souvent crispées d'une inquiète sympathie. Il s'appelait Jacques-Stéphane Alexis.